Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En cette période de crise sanitaire, beaucoup de patients ont déserté non seulement les hôpitaux, mais aussi certains cabinets médicaux. Des consultations à distance, par écran interposé ou par téléphone, ont pu dans certains cas se substituer aux rendez-vous en face à face. Mais ce type d'aménagement, d'adaptation, s'il a été convaincant pour certaines questions de santé, eh bien il s'est révélé inadapté pour d'autres spécialités, des pratiques où le toucher, la manipulation sont essentiels, des soins qui requièrent une intervention mécanique, des gestes pour soulager, pour extraire, pour soigner tout simplement. Alors que le risque infectieux se concentre dans la sphère de la bouche et du nez, la prudence reste extrême forcément pour tout ce qui concerne les affections des dents et des gencives. Ainsi en France, seules les urgences ont été assurées ces dernières semaines. Il a fallu s'organiser, prioriser pour assurer une sécurité maximale tant des patients que des médecins et des autres soignants. Et aujourd'hui, alors que la tension est moins forte, l'activité n'a pas encore repris à plein dans les cabinets et services d'odontologie. La santé des dents et de vos gencives aujourd'hui, c'est dans Priorité Santé, avec bien sûr toutes vos questions et les réponses de nos invités. Deux spécialistes de la santé bucco-dentaire avec nous, docteur Marjoline Gosset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parodontiste à l'hôpital Charlefoix à Ivry-sur-Seine en région parisienne et vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Descartes. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Ouagadougou le docteur Aimé Désiré Kaboré qui préside l'Ordre national des chirurgiens du Burkina Faso. Docteur Kaboré qui dirige le centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouaga. Et puis en fin d'émission, on vous proposera notre séance de relaxation avec le docteur Adrien Chaboch, psychothérapeute et hypnothérapeute, cofondateur du centre Vitruve à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Marjolaine Gosset, je le disais, ces dernières semaines, en France, les soins bucco-dentaires ont été limités essentiellement aux urgences. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses ont repris leur cours dans votre spécialité? Comment ça se passe?
Oui, l'activité a repris depuis le déconfinement, donc il y a 3 semaines environ. Après, la reprise d'activité a été dépendante de la capacité de tous les cabinets d'adopter les protections pour la protection des patients et du personnel avec les équipements de protection individuelle qu'il a fallu acquérir, les circuits et autres. Mais globalement, les cabinets ont tous pu rouvrir, qu'ils soient libéraux, de villes, hôpitaux universitaires qui n'avaient pas fermé et autres structures qui puissent exister.
Ça veut dire en termes d'organisation et de matériel, moins de patients pour éviter les contacts et plus de matériel, par exemple, ces masques et ces visières?
Oui, masques et visières, sur blouse aussi, qu'il a fallu pour beaucoup même confectionner parce qu'il n'y avait pas assez de surblouses disponibles, voire même sur chaussures à une époque. Charlotte, évidemment, donc c'est tous les masques de protection individuelle qui sont mis par les praticiens. Et concernant les patients, par contre, il y a plus des normes de port de masque en arrivant au cabinet. Évidemment, quand on est chez un dentiste, le masque, il faut l'enlever. Et donc, du coup, on réalise des bains de bouche antiseptiques avant le début des soins et on aère les cabinets entre 2 patients. Et on fait tout pour qu'ils ne se croisent pas. Il n'y a pas de rencontre de patients et ils ne doivent pas être accompagnés pour venir au rendez-vous, sauf évidemment pour les personnes qui en ont besoin.
Et bien évidemment, pour tout ce qui est matériel, tous vos outils si précis, si précieux, la stérilisation, la sécurité sanitaire était bien sûr assurée bien avant cette vague épidémique.
Tout à fait. De toute façon, les normes de stérilité sont très exigeantes dans un cabinet dentaire et effectivement, tout était déjà organisé pour que le matériel soit stérilisé, voire à usage unique pour certains composants. Ça, c'était quelque chose de base dans le cabinet.
Alors, on va revenir au cœur de votre sujet, docteur Gosset. L'hygiène dentaire, beaucoup de questions d'auditeurs aujourd'hui, notamment sur la page Facebook de l'émission. Question très simple, mais essentielle, comme souvent avec les questions simples, c'est Janvier, en RDC, il vit à Nzulo, il demande quand est-ce qu'il est nécessaire de brosser ses dents, est-ce avant ou après manger? Et puis cette question aussi qu'il nous pose, est-ce que c'est vraiment important de brosser ses dents tôt le matin à la descente du lit, demande-t-il, même quand on n'a pas encore mangé. Qu'est-ce que vous lui dites en matière aussi bien de rythme que de moment de la journée où on se brosse les dents ?
C'est une très bonne question. C'est des questions qu'on a régulièrement de la part de nos patients. Globalement, on conseille deux brossages, un matin et un soir, après la prise alimentaire, puisque ça permet de déloger les aliments et de rééquilibrer le pH de la bouche et de contrôler la quantité de plaques dentaires pour diminuer les différents risques que ça entraîne, c'est-à-dire avant tout le risque carieux, mais aussi le risque au niveau des gencives. Et on le fait le matin et le soir après donc les prises alimentaires. Ça suffit généralement puisqu'on considère que ces bactéries de la bouche qui se collent sur les dents et qui se stratifient pour former de la plaque dentaire deviennent agressives à partir d'une certaine quantité. Et donc, entre 8 à 10 heures environ, cette quantité est acquise. Et donc, du coup, si on fait matin et soir, on a un brossage qui est suffisamment espacé pour contrôler la quantité de plaques dentaires et après les aliments, après l'alimentation, pour contrôler le sucre et le pH de la bouche et ainsi diminuer le risque de carie.
Alors, petite correction par rapport à ce que nous demandait Janvier. Donc, pas à la descente du lit, mais après le petit déjeuner, c'est ça ?
Oui, exactement.
Et puis une réponse simple à une question de Tessour qui lui aussi est en RDC. Il a demandé combien de fois faut-il se brosser les dents chaque jour. Je vous ai bien écouté, docteur Gosset, j'ai conclu 2 fois.
Maintenant, on recommande effectivement 2 fois parce qu'il vaut mieux avoir 2 bons brossages et qu'ils soient efficaces plutôt que 3 pas bien réalisés. Et 3 bien réalisés, souvent, va user aussi les dents. Et on a beaucoup de phénomènes d'usure actuellement. Et donc, on s'est rendu compte que c'était important de ne pas les user.
Alors, sujet majeur de préoccupation, beaucoup de questions, impossible de toutes les citer sur la fameuse ennemie des dents, ennemie numéro 1, docteur Marjolaine Gosset, la carie. Comment se forme-t-elle et est-ce qu'il en existe de différentes sortes ?
Alors, la carie dentaire, en fait, ça va être une destruction de la surface de l'émail, qui est la partie la plus externe de la dent, qui est extrêmement minéralisée et dure, qu'on voit quand on sourit, la couche qui recouvre les dents, par des bactéries qui sont posés sur les dents et qui vont consommer les sucres de l'alimentation pour les transformer en acide, et l'acide détruit l'émail, la partie minéralisée. Et c'est pour ça qu'il est important de contrôler la plaque dentaire par le brossage, parce que ça permet d'enlever les bactéries cariogènes qui créent des caries, et c'est pour ça qu'il est important de brosser ses dents après les repas, parce que ça permet de contrôler les sucres et les acidités pour permettre de protéger les caries. Les caries, elles apparaissent préférentiellement plutôt sur les zones qui sont anfractueuses, il y a avec beaucoup de relief sur les dents, donc c'est les surfaces masticatrices, les surfaces du dessus, qu'on appelle
On dit les sillons des fois,
oui,
les sillons dentaires.
Tout à fait, il y a les sillons qui sont une des formes de l'anatomie, qui des fois on va être amené à les protéger, à les fermer chez les enfants pour prévenir le risque de carie. Elles apparaissent également beaucoup sous les points de contact entre deux dents, c'est-à-dire sur les faces latérales, dans la continuité des arcades. Et là, c'est pour ça qu'il est important de nettoyer sous ces points de contact par du fil dentaire ou plus tard par des brossettes interdentaires. Après, on peut avoir des caries un peu atypiques qui vont apparaître, par exemple, sur les racines dentaires ou sur des surfaces qu'on appelle lisses, donc les surfaces externes dirigées vers les lèvres ou vers la langue. Ça apparaît plus pour des gens qui vont avoir des problèmes de salive, par exemple, et la salive n'exerce plus son rôle de protection. Il va y avoir des caries atypiques, mais c'est plus rare, ces formes de caries.
Et une autre question Facebook d'auditeurs sur ces fameuses caries qui peuvent être tellement douloureuses. Alassane de Bamako demande, est-ce que la carie est héréditaire ?
La carie n'est pas vraiment héréditaire dans le sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'il y aurait une fatalité et si ses parents ont eu des caries, on est sûr d'avoir des caries. Mais il y a une composante héréditaire, à savoir génétique, dans le sens où on a des défauts de construction des dents qui peuvent être transmis entre les familles et également dans le sens où il y a des habitudes familiales qui vont être transmises et également des flores bucco-dentaires qui vont être partagées. C'est-à-dire que quand une maman va avoir un bébé, si elle lèche sa cuillère avant de la donner à l'enfant, ou si elle lèche la tétine avant de donner à l'enfant, elle va transmettre ses bactéries à l'enfant, et elle, si elle a une flore cariogène, elle va la transmettre à l'enfant. Tandis que si on évite d'avoir ces éléments croisés, on va protéger l'enfant d'une colonisation par des bactéries cariogènes. Donc la dimension, elle n'est pas que génétique, et elle a aussi d'autres dimensions qui vont exister, qu'on peut entendre en termes héréditaires.
Il peut y avoir une dimension familiale qui n'est pas génétique, c'est ça ?
Tout à fait, exactement.
Alors, docteur Marjolaine Gosset, une vaste question, je vous la pose quand même, on n'a pas toute l'émission pour répondre, mais quel rôle joue notre alimentation dans la santé de nos dents ?
Crucial.
Voilà, la réponse est claire.
Crucial. En fait, le sucre qui est présent dans l'alimentation et la fréquence des prises alimentaires sont vraiment deux points essentiels qui expliquent l'apparition des caries. Et le sucre, il est présent sous de nombreuses formes cachées, et donc on n'a pas que le morceau de sucre qui va apporter du sucre quotidien dans la bouche. Il y a tous les sodas, il y a toutes les eaux qui sont parfumées, qui sont sucrées. Qui sont très fréquentes actuellement, donc le sucre est vraiment très réparti, c'est pas que des bonbons. Et le fait de grignoter et d'avoir des apports fréquents de sucre dans la journée, c'est un vrai problème. Donc ce qu'on conseille, c'est effectivement de ne pas avoir de grignotage et d'avoir une alimentation la moins sucrée possible, effectivement.
Et le sucre des fruits, Marjolaine Gosset ?
Alors, je ne suis pas experte sur ces domaines-là, mais il me semble que le sucre des fruits, qui est du sucre fructose, est moins cariogène que le sucrose.
Et c'est très, très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. J'aime bien cette réponse. Docteur Marjolaine Gosset, alors, les auditeurs de l'émission nous ont laissé des messages sur le répondeur de Priorité Santé. Un premier message, il est signé Antoine Ibrahim.
Allô, bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Kamisoko Antoine Ibrahim, je vous appelle depuis Bamako, Mali. J'ai 30 ans et je fume il y a 12 ans. Maintenant, j'ai des taches noires sur les dents qui commencent vraiment à me déranger. Il y a un moment, j'avais cessé de fumer pendant 3 mois ou 4 mois. Et je me brossais les dents 2-3 fois par jour. Mais le résultat, ça n'a rien donné. Les taches, ils sont toujours. Donc la question que j'aimerais poser, est-ce qu'il est possible que je puisse avoir une dentition saine et que mes dents redeviennent comme ils étaient avant? Que me recommanderez-vous pour que je puisse avoir une dentition saine? Merci.
Alors, on va commencer par la question qui préoccupe au premier plan Antoine Ibrahim. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ces taches dues au tabac? Puis après, on parlera de l'effet du tabac sur la santé dentaire, si vous le voulez bien, docteur Marjolaine Gosset. Déjà, sur ces taches, est-ce qu'il peut s'en débarrasser ou pas?
Alors, seul, on va lui éviter. Enfin, généralement, on va plutôt recommander d'aller voir un praticien qui va faire un nettoyage avec des pâtes à polir. Actuellement, on va éviter les aéropolissages parce que c'est très aérosolisant et que, avec l'épidémie de Covid, en tout cas en Europe, c'est quelque chose qu'on évite. Mais c'est des choses qui sont simples à enlever. La tâche, c'est simplement les dépôts de nicotine sur les dents.
Mais ce ne sera pas simplement en se brossant les dents, ça ne suffira pas.
Alors voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser un brossage trop fort pour essayer de frotter et enlever les dents, parce que c'est là qu'on va les user de façon très importante et user aussi ses gencives. Et souvent, les gros fumeurs frottent beaucoup les dents pour enlever les taches et s'usent beaucoup les dents. C'est pour ça qu'il vaut mieux, bien sûr, arrêter de fumer, c'est une évidence, tout le monde le sait, hein, que c'est mauvais pour la santé, dont les dents, mais plutôt voir un praticien qui fera un entretien régulier et qui pourra contrôler les caries et autres et réaliser également l'élimination des colorations tabagiques.
Alors bien sûr, quand on parle de fumée, on imagine les méfaits pour les poumons. Vous le dites, c'est aussi mauvais pour les dents, docteur Marjolaine Gosset, pour les gencives. Comment est-ce que ça agit le tabac sur cette santé bucco-dentaire?
Le tabac, c'est extrêmement négatif, surtout pour les maladies du parodonte, donc les maladies des tissus d'ancrage des dents, qui permettent de maintenir les dents dans la bouche. Parce que déjà, un, ça masque l'inflammation, c'est-à-dire qu'on va développer une maladie parodontale qui se traduit notamment par une inflammation de gencive, mais sans le voir, parce que le tabac diminue la taille des vaisseaux sanguins dans la gencive, donc les gencives sont moins vascularisées et ne vont pas saigner, qui est un signe d'alerte. Montrer qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, il altère la réponse immunitaire, donc la façon dont on se protège par rapport aux maladies parodontales. Et ces maladies vont donc se développer et entraîner une destruction des tissus de soutien des dents. Et on peut estimer, en fonction de la quantité d'années de tabac et la quantité de tabac fumé, qu'on va évaluer en nombre de paquets par an, des risques qui peuvent être augmentés de facteur 8 ou de facteur 10 d'avoir des parodontites qui vont être présentes.
Alors, si l'argument poumon ne suffit pas, on peut dire l'argument sourire. À la fin, vraiment, ça abîme le sourire de fumer. On va donner la parole tout de suite à un autre auditeur, c'est Sylvestre. Il est en ligne du Sénégal.
Bonjour Caroline, c'est Sylvestre. Lors d'une consultation l'année dernière, mon dentiste m'a recommandé d'enlever mes dents de sagesse parce qu'elles ont mal poussé et pourraient me causer des douleurs à moyen terme. Je voudrais avoir votre avis sur la question. Faut-il suivre cette recommandation alors que je ne ressens en ce moment aucune douleur? Merci.
Docteur Marjolaine Gosset, pourquoi ce conseil d'extraire des dents de sagesse quand on a pas mal aux dents?
Alors, c'est une situation extrêmement fréquente de être confronté à des extractions de dents de sagesse, finalement presque en prévention, alors qu'on a pas mal aux dents, parce qu'il est vrai que les dents de sagesse n'ont pas souvent suffisamment de place pour émerger, faire leur éruption dans la bouche avec un environnement qui leur est favorable. Elles peuvent être du coup délétères pour les dents en avant, ou elles peuvent sortir partiellement et après, par exemple, se carier sous la gencive parce qu'elles ne sont pas entièrement sorties, et donc s'accompagner de problèmes, même infectieux, et on devra dans ce cas-là agir en urgence dans un contexte inflammatoire infectieux, ce qui n'est pas la meilleure situation pour extraire les dents. Donc ça arrive régulièrement qu'on extrait les dents de sagesse dans des contextes où tout va bien, même s'il n'y a pas de douleur.
Donc c'est un acte de prévention qui est important.
Oui, c'est tout à fait, c'est très couramment réalisé. Et c'est vrai que sans dents de sagesse, globalement, avec les 28 dents qu'on a en bouche, si toutes les dents sont présentes, on a suffisamment de surface pour mâcher. Et il n'y a pas de conséquences finalement sur la nutrition, sur le support, sur d'autres éléments pour que ça pose problème. Et donc c'est quelque chose qui est fréquemment réalisé.
On a un petit peu parfois du mal à distinguer la douleur dentaire de la sensibilité dentaire. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la différence entre les deux ?
Alors ça, c'est une question qui est complexe, puisque ça fait appel à la fois à des éléments de perception individuelle, des éléments du coup de communication du patient et des éléments aussi physiopathologiques présents dans la bouche. Souvent, par douleur, on va vraiment entendre quelqu'un qui va évoquer sur une échelle numérique ou sur une EVA, donc une réglette où il peut évaluer sa douleur, quelque chose qui va être au supérieur à 4. Donc sur une échelle de 0 à 10, on demande à la personne d'estimer sa douleur, 10 étant la pire douleur qu'il puisse imaginer, et zéro pas de douleur, et il va devoir donner un chiffre ou déplacer une réglette pour montrer où il se situe. Et de 4 à 7, on va considérer que c'est des douleurs modérées, au-delà de 7, des douleurs intenses qui nécessitent une prise en charge immédiate. Et on pourrait dire avant que c'est une douleur légère, voire éventuellement une sensibilité. Mais dans le terme dentaire, dans le jargon des dentistes, quand on dit sensibilité, ça veut souvent dire sensibilité dentinaire, ça va être des dents qui vont avoir des passages de stimuli de l'environnement extérieur jusqu'au nerf de la dent et qui vont entraîner des petites douleurs qui peuvent être vives mais qui vont être très rapides et qui vont s'estomper très rapidement. Mmh. Et qui ne vont pas forcément être chroniques et perdurer dans le temps. Mais c'est compliqué parce que ça fait appel à des notions de définition de douleur de répondre en ces termes en fait.
Question d'un auditeur togolais tout de suite. C'est commis, on l'écoute.
Bonjour Caroline. Il y a de cela 5 ans, je souffre de la sensibilité dentaire lorsque je consomme l'ananas ou la sauce de carcadé. Et il faut 48 heures avant le retour à la normale. Je me brosse les dents chaque matin et soir, accompagné parfois de bicarbonate de soude une fois dans la semaine, d'une manière lente, toujours du haut vers le bas. Ma question est de savoir comment faire pour éviter cette sensibilité dentaire ou bien quels médicaments ou bien produits à prendre pour combattre cette sensibilité dentaire.
Alors, vous avez compris pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, docteur Gosset. C'est vrai que des fois, quand on mange certains aliments, par exemple avec la chaleur, notamment le chaud, le froid, on ressent des choses particulières. Ça peut être très gênant, ça peut être très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Si c'est, il faut d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de caries. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et s'il n'y a pas de caries, si on ne trouve pas d'autres causes évidentes au niveau des douleurs, on arrive à un diagnostic vraiment d'hypersensibilité dentaire, c'est-à-dire des surfaces radiculaires de racines, par exemple, qui sont très réactives au chaud et au froid, puisque la racine n'a pas d'émail, et quand elle est exposée en bouche, elle va être plus sensible. Et dans ce cas-là, on conseille beaucoup des agents désensibilisants qui sont véhiculés par des battes dentifrices et qui peuvent se déposer à la surface des racines et permettre d'oblitérer des petits tubes qui communiquent dans la dent entre le milieu extérieur et le nerf de la dent et qui sont à l'origine du passage des stimuli, donc des stress, par exemple du froid, jusqu'à la dent.
Donc aller par exemple au supermarché trouver ou en pharmacie, dentifrice pour dents sensibles.
Oui, il y a des agents qui sont vraiment plus efficaces que d'autres. Après, je ne veux pas faire de noms commerciaux, mais voilà.
Non, surtout qu'en Afrique, ils seront difficilement, pas forcément accessibles.
Voilà, exactement. Il y a des choses qui peuvent vraiment marcher. Après, il y a d'autres choses qu'on peut réaliser, comme l'application de vernis fluoré ou des choses qui vont permettre d'oblitérer également les racines. Mais premier message, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de caries, parce que 48 heures après le début de la douleur cède au bout de 48 heures, d'après notre auditeur, et c'est beaucoup 48 heures. Donc ça peut poser question quand même.
Alors j'ai une autre question par rapport à ce que disait justement Commis, cet auditeur du Togo. Il utilise du bicarbonate de soude, mais j'ai un autre message là. C'est l'Andrès à Pointe-Noire qui lui dit « On a l'habitude de se laver les dents avec du charbon, du sel de cuisine » quand il n'y a pas de pâte dentifrice. Tous ces produits, d'abord, ils ne sont peut-être pas tous aussi inutiles que ça? Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils sont toxiques? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va commencer avec le bicarbonate de soude.
Alors, le bicarbonate de soude, c'est quelque chose qui est utilisé et qui peut être utilisé de façon courante pour brosser effectivement les dents, qui va permettre éventuellement, quand il y a beaucoup d'inflammation, d'avoir un effet un peu... le sel fait sortir un peu l'eau des tissus quelque part, mais diminuer un petit peu les inflammations. Après, c'est quelque chose qui devrait rester secondaire, et s'ils peuvent avoir accès à des dentifrices fluorés, il faut vraiment aller chercher les dentifrices fluorés, parce que le fluor est l'élément de prévention de la carie bucco-dentaire qui fait froid et qui est reconnu au niveau international, notamment par l'OMS.
Si d'accord, vaut mieux un vrai dentifrice. Le sel de cuisine, c'est le même usage que le bicarbonate de soude, ça va avoir le même effet?
Oui, j'imagine ça pareil. Après, évidemment, j'ai moins de recul sur le sel de cuisine, puisque c'est des choses en Europe où les gens vont avoir plus facilement peut-être accès à des pâtes dentifrices.
Bien sûr.
Je dirais qu'il faut peut-être se méfier aussi du côté... granuleux que pourraient avoir les produits utilisés et qui pourraient être abrasifs et user les dents. Donc peut-être que tout à l'heure, monsieur Cabouret aura peut-être plus de connaissances de ces éléments.
Tout à fait. Je le renverrai aussi sur la question sur le charbon, parce que c'est aussi quelque chose qui revient fréquemment. Même si certains chefs du marketing de certaines pâtes dentifrices ont osé vendre des pâtes dentifrices noires en faisant croire aux gens qu'ils avaient les dents plus blanche. Il y avait déjà eu avant la pâte dentifrice rouge pour faire rougir la gencive, et il y a eu la pâte dentifrice noire. Donc là, je pense que sans critiquer de façon excessive, docteur Marjolaine Gosset, on peut dire que c'est du marketing.
Bon, en tout cas, la couleur du dentifrice, c'est pas ça qui véhicule un agent a priori nécessaire et
voilà.
Qui a une forme marketing.
Voilà, c'est plus utile pour le maquillage, on va dire. Alors, être gêné par des problèmes dentaires, ça peut prendre des formes très différentes. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Darius.
Bonjour, je m'appelle Darius, je vous appelle depuis la RDC. Depuis 2016, je reconnais comme quoi j'ai un problème des dents. Je graisse les dents la nuit inconsciemment. Ça que je puisse... connaître comme quoi je graisse les dents, et cela m'arrive dans une pleine sommeil. Je me réveille le matin, je ressens que j'ai le mal de tête. Il y a des fois où je me réveille même, il y a le mâchoire qui se bloque. Mais alors, avant 2016, je me réveillais, je croyais que c'est le problème des études. J'ai étudié beaucoup, alors je croyais que c'est le problème des études. C'est après 4 à 3 témoignages que j'ai réussi, comme quoi c'était la vérité, que je graisse les dents la nuit. Alors, je voudrais assez que je puisse avoir le remède très simple et naturel, parce que j'ai trouvé les dentistes, les psychologues, même d'autres n'ont pas reconnu ce problème-là. C'est en fait les recherches sur Google qui m'ont fait le courage de chercher tout, et je trouver comme quand même il y a d'autres qui en souffrent, ce problème-là de bruxisme. Alors je voudrais un remède, comment je pourrais faire pour remédier naturellement ce problème-là. C'est très simple, merci.
Alors Darius a utilisé le terme, le bruxisme, grincer des dents. Darius parle de ses soucis à un moment donné où il était préoccupé. Pourquoi, docteur Marjolaine Gosset, certains d'entre nous grinçons des dents la nuit, et qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il y a beaucoup de personnes qui grincent des dents la nuit. Ce qui est assez complexe, c'est que quand c'est la nuit, on ne peut pas se contrôler. Si ça arrive en journée, on peut trouver des trucs et astuces pour arriver à se dire « est-ce que je grince des dents ou pas ?» Donc j'arrête. La nuit, c'est plus complexe. Pourquoi ? C'est souvent lié effectivement au stress. Et donc, il faut arriver à essayer de gérer ça. Et il peut y avoir des techniques intéressantes aussi de gestion du stress qui peuvent permettre de décompresser et d'avoir un meilleur sommeil. Mais sinon, ce qu'on va recommander classiquement, c'est de porter ce qu'on appelle des gouttières de libération occlusale qui ressemblent en fait à des petits protège-dents durs. Donc on va portés généralement sur l'arcade du haut ou éventuellement sur l'arcade du bas, qui vont permettre de désengrainer les dents et de relâcher du coup la tension au niveau des muscles et des articulations qui peuvent s'abîmer et être à l'origine de douleurs très fortes, voire de maux de tête qui sont ressentis par Darius, mais également qui vont permettre de protéger les dents pour éviter qu'elles se cassent à terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien réalisé en Europe. J'imagine que ça doit être assez facilement réalisable aussi, puisqu'il s'agit d'une empreinte et d'une résine dure qui va être réalisée par un laboratoire et qui pourrait être adaptée pour la bouche du patient.
bien sûr, avec le problème éventuellement du coût de cet outil, de cette gouttière. En tout cas, ce qu'on peut conseiller là, c'est gratuit à Darius, c'est d'écouter la chronique relaxation hein, du docteur Chaboch à la fin de cette émission. C'est vrai que faire un petit peu de mise à plat, de souffler avant de dormir, si ça peut détendre, on ne sait jamais si ça peut aider, ça peut être tout à fait intéressant. On va rejoindre le Burkina Faso tout à l'heure. On pourra d'ailleurs poser la question au docteur Kaboré concernant le prix de ces gouttières, par exemple, en Afrique subsaharienne. Mais on va d'abord donner la parole à un autre auditeur. Il est à Nouakchott, en Mauritanie, et c'est Alioune. Lui a des problèmes de gencives.
Je constate depuis quelques années, deux ou trois, que j'ai le sentiment que mes dents ont tendance à se déchausser. Je ne sais pas si c'est l'expression consacrée. En d'autres termes, j'ai comme l'impression que ma gencive se rétrécit. Elle a tendance à se retirer sous la dent, au point que celle-ci a tendance à être dénudée et au point qu'elle vacille. Donc j'en ai quelques-unes que j'étais obligé d'arracher parce qu'elle ne tenait plus rien à rien du tout. Évidemment, je ne saurais vous dire ça sans vous informer également que je suis diabétique de type 2, donc je n'utilise pas de l'insuline. Évidemment, je me brosse régulièrement, j'utilise même du bain de bouche. Et dernièrement, j'ai pu jeûner tout le mois de Ramadan sans aucun problème. Donc voilà ma question, je voudrais savoir pourquoi ce phénomène et quel est le remède s'il y en a. Merci.
Alors, dans son message à lui, il nous précisait aussi qu'il venait d'avoir 60 ans, donc il se brosse les dents. Il souffre de diabète. Est-ce que ces indications sont importantes, docteur Marjolaine Gosset, pour comprendre les problèmes de gencives d'Alioune?
Oui, ils sont très importants. En fait, ce que Alioune nous dit, c'est qu'il a tous les signes cliniques de ce qu'on appelle la parodontite, donc la maladie qui entraîne le déchaussement des dents. Puisque ses dents se déchaussent, il voit les racines apparaître. Elles vacillent, ça veut dire qu'elles bougent. Il en a même perdu parce qu'elles bougeaient. Et souvent, il y a une forme d'injustice parce que c'est des dents saines, non cariées, qui tombent. C'est assez dur à vivre. Et le diabète est bien reconnu comme ayant des relations très fortes avec la parodontite. Et les relations sont même doubles. Donc c'est ça qui est intéressant à savoir et à retenir. C'est-à-dire qu'un patient qui est diabétique, surtout s'il n'est pas équilibré et qu'il a un taux de sucre important dans le sang, il va y avoir une mauvaise réponse immunitaire et donc une réaction aussi avec une maladie de parodontite et de déchaussement des dents accélérée. Et à l'inverse, avoir une parodontite va avoir également des conséquences sur le diabète et va réduire la capacité du corps à être sensible au traitement hypoglycémique, donc au traitement du diabète. Et donc on va dire à quelqu'un qui a une parodontite sévère que le traitement parodontal va permettre de jouer sur l'équilibre du diabète autant que de faire une heure de sport par jour. Enfin, ça peut être vraiment ça en échelle. Donc c'est très important d'aller consulter un praticien parce qu'on peut traiter les patients qui sont diabétiques pour leurs problèmes de dents.
Donc pour leurs problèmes de gencives. Essentiel d'avoir une bonne hygiène dentaire quand on souffre de diabète, encore plus on va dire.
Tout à fait, et d'avoir un suivi encore plus régulier, si c'est possible, auprès d'un dentiste.
Vous restez avec nous, docteur Marjolaine Gosset.
Priorité santé sur RFI.
Alors on part pour le Burkina Faso. Pour vous retrouver, docteur Aimé Désiré Kaboré, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors vous êtes le président de l'Ordre national des chirurgiens du Burkina Faso, dentiste, directeur du centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouaga. En début d'émission, tout à l'heure, on a parlé avec le docteur Gosset de l'impact de la situation sanitaire sur les consultations pour votre spécialité. Du côté du Burkina, on le sait bien sûr, hein, l'épidémie est beaucoup moins importante qu'en France, qu'en Europe ou que sur le continent américain. Mais est-ce qu'il y a quand même des mesures de précaution, au-delà des mesures barrières? Comment ça se passe pour vous dans vos cabinets, docteur Kaboré, dans vos cabinets dentaires?
Oui, merci beaucoup. Je salue le professeur Gosset qui est un maître, une consoeur, et je réponds tout de suite à cette question en disant que la maladie à coronavirus a bien sûr impacté tous les pays. Bien sûr, chez nous, il y a eu un impact très important sur la psychologie des populations, même si nous n'avons pas eu, par chance, et par les mesures qui ont été prises, l'hécatombe qui était prévue. Nous restons quand même très, très, très prudents parce que c'est une maladie qui est méconnue. Et comme disait le professeur Gosset tout à l'heure, les mesures d'asepsie, d'hygiène au cabinet dentaire était déjà pris par les chirurgiens dentistes dans les soins quotidiens. Et donc, avec la survenue de cette nouvelle maladie qui est méconnue, il va falloir donc beaucoup de prudence. Et dans nos cabinets, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos salles de soins ne soient pas bondées de patients, respecter une distance entre les patients qui viennent à nos consultations. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans nos pays, ce sont des pays donc non développés, des pays pauvres, et donc l'accès aux soins dentaires est difficile.
Tout à fait.
Moi, dans mon cabinet, qui est un cabinet public, ben, il y a une forte affluence et il va falloir donc prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de propager la maladie à coronavirus via les cabinets dentaires.
Alors, il y a deux questions qui sont restées en suspens tout à l'heure avec nos auditeurs et on a besoin justement de votre expertise d'homme de terrain concerné directement par les questions de nos auditeurs. Ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais j'y vais parce qu'elles sont importantes quand même. On avait un auditeur qui disait que beaucoup d'entre lui, ses amis, son entourage utilisaient du charbon pour se brosser les dents. Vous avez connaissance de cette pratique et qu'est-ce que vous en pensez, docteur Caboret ?
Oui, bien sûr que j'ai connaissance de cette pratique qui est légion, qui est bien utilisée dans nos pays, mais nous ne pouvons pas affirmer que cette pratique blanchit les dents du fait qu'il faut des études pour le dire. Ce que nous savons, c'est que le charbon est une roche sédimentaire qui dépollue, qui absorbe donc tout ce qui est polluant, qui dépollue et qui peut-être pourrait enlever les taches ou les discolorations qui sont sur les dents, mais il faut dire que cela n'est pas sans risque au regard du fait que ce charbon-là peut être abrasif et détruit donc la surface de l'émail et exposer les autres tissus durs de la dent qui se trouvent en bas, la dentine, et ensuite donc les tissus mous nobles de la dent.
Donc il faut faire quand même attention.
Il faut quand même faire attention.
Au sujet de la gouttière, quand on souffre de bruxisme, quand on grince des dents la nuit, est-ce que c'est quelque chose qui se fait par vos confrères ou est-ce que c'est quelque chose à la limite qui est difficile et qui coûte trop cher pour le citoyen moyen ?
Oui, c'est sûr que ce n'est pas accessible à tout le monde. Même à Ouagadougou, la capitale, ce n'est pas évident de pouvoir réaliser une gouttière pour tout le monde. Nous en faisons de temps en temps pour certains patients, mais nous savons aussi que l'évolution de la science est telle que les gouttières, il faut savoir les utiliser. Il y a plusieurs types de gouttières. Il ne faut pas, le professeur Gosset est là, il ne faut pas les utiliser n'importe comment au risque d'aggraver la pathologie que l'on souhaite traiter. Le bruxisme, en réalité, pour ma connaissance, la gouttière va relaxer les muscles parce qu'au fil du temps, nous allons avoir donc une contraction musculaire au niveau donc des muscles de la sphère orofaciale, les masséters, les temporaux, qui vont donc être source de douleur pour le patient. Et la gouttière, dans son premier rôle, va détendre ses muscles et soulager le patient du point de vue de la douleur. C'est quelque chose.
Autre question, docteur Aimé Désiré Caboret, je voudrais vous soumettre une question d'un auditeur. C'est Mayombo de la RDC de Calémie, précisément. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Caroline. J'ai mon fils de 7 ans et demi maintenant qui a des problèmes dentaires. Nous avions remarqué lorsqu'il faisait ses dents qu'il y a eu une superposition des canines des deux côtés de l'arcade dentaire inférieure. Et nous sommes allés voir un chirurgien dentiste, mais vu l'âge de l'enfant, il nous propose de revenir lorsqu'il aura atteint 4 ans, l'âge favorable selon lui pour supporter le coût de l'intervention. Effectivement, nous avions respecté le rendez-vous et les 4 dents furent enlevées. Malgré cela, je n'étais pas non plus d'accord de procéder à cette action, sachant que les dents sont encore temporaires. Elles tomberont pour laisser la place aux dents permanentes. Curieusement, Caroline, les mêmes dents sont réapparues. Nous n'avons pas ici une denturologie pour une prothèse dentaire qui pourra l'aider au redressement de sa denture. Alors, Caroline, mes questions sont les suivantes. Y a-t-il une méthode ou un traitement pour empêcher la poussée en désordre de cette denture? L'enfant a 7 ans maintenant. Que faire pour les arranger? Faut-il les enlever encore une fois ou attendre qu'il atteigne l'âge majeur. Voilà ma préoccupation.
Et c'est une préoccupation de beaucoup de parents, hein, docteur Aimé Désiré Caboret. Comment vont pousser les dents des enfants, cette implantation? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce papa?
Alors, moi, je suis très satisfait de cette question qui va permettre d'éclairer la majorité des parents qui ont besoin de savoir que les dents de lait sont des dents importantes. Nous, dans la tradition, on dit que les dents de lait sont les aînés. Donc, ce sont les grands frères ou les grandes sœurs des dents définitives donc, qui vont venir. Les dents de lait sont celles qui vont guider l'arrivée, l'éruption des dents définitives. Et donc, il faut pouvoir, et c'est pour ça aussi que l'on demande aux parents d'avoir une consultation, d'avoir un suivi pour les enfants. Mmh. Il faut pouvoir suivre la chronologie d'éruption ou de chute de ces dents de lait et l'apparition des dents définitives. Lorsque cette chronologie est perturbée, nous pouvons avoir une éruption en désordre au niveau de la cavité buccale. De sorte que les parents qui ne comprennent pas toujours que les dents de lait sont importantes pensent que lorsqu'une dent de lait est malade ou lorsqu'une dent de lait persiste, ben, on dit c'est une dent de lait, de toute façon, elle va tomber, et parfois elle ne tombe pas du tout. Mmh. Et en ne tombant pas, elle perturbe l'arrivée donc
des autres
de la dent définitive, et celle-ci peut aller pousser n'importe où. Lorsqu'elles sont aussi extraites de manière, extraites beaucoup plus tôt que prévu, hein, nous prenons par exemple, une prémolaire qui doit pousser, une première prémolaire qui arrive autour de 9 ans, ben, elle remplace une molaire de lait qui, elle, va tomber autour de cet âge-là également.
Docteur Caboret, qu'est-ce que vous pouvez... Excusez-moi de vous couper parce que le temps nous presse et après on pourra pas poser toutes les questions. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à ce papa? Là, son enfant maintenant a 7 ans, on va dire trivialement, il a les dents de travers. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Oui, 7 ans, il faut retourner au cabinet dentaire pour que l'on puisse voir exactement de quoi il s'agit. Est-ce que véritablement c'était des dents, des canines de lait qui avaient été extraites plus tôt? Est-ce que c'était des incisives de lait qui avaient été extraites et que le papa croit que c'est la canine de lait qui avait été extraite? Il faut véritablement retourner au cabinet dentaire, que le chirurgien dentiste puisse examiner avec minutie et donner véritablement la conduite à tenir, parce que il est censé le savoir.
Donc ce conseil, c'est vraiment pour Mayombo de retourner voir le dentiste. On vous remercie beaucoup, hein, docteur Aimé Désiré Caboret, d'avoir été en ligne avec nous du Burkina Faso. Docteur Marjolaine Gosset, les minutes tournent, on arrive à la conclusion justement sur cette santé bucco-dentaire. J'aimerais un dernier message parce qu'on parle beaucoup des dents, mais c'est vrai que beaucoup encore de personnes, on va dire, négligent un petit peu la base des dents. Les gencives, c'est votre spécialité. Quel message à ce sujet, justement, sur une vigilance particulière sur nos gencives?
Le message, c'est vraiment d'être très alerte et de réagir si une gencive saigne. C'est-à-dire que si on brosse les dents et qu'on déclenche un saignement, si on mange une pomme, ça saigne. Si on mange même du pain de mie ou si la nuit, ça saigne alors qu'on ne sait rien, c'est que les gencives sont malades. Et donc, c'est qu'il faut aller consulter pour évaluer quelle est la maladie et surtout la traiter pour pas que ça continue à évoluer.
Mais il y a une certaine part de psychologie, hein, parce qu'un certain nombre de personnes rechignent à aller chez le dentiste. Pour beaucoup, c'est une vraie corvée. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et d'ailleurs, est-ce qu'elles changent? Est-ce que les mentalités changent par rapport à cette fameuse peur du dentiste?
Je l'espère. On essaye de tout faire pour. Je pense qu'effectivement, les dentistes ont une image sociétale qui reste assez négative et il y a encore beaucoup de phobies dentaires. Pourtant, les dentistes, évidemment, travaillent dans un lieu qui est intime, qui est la bouche et qui est associé à beaucoup de choses, que ce soit le sourire, la prise de parole, la sexualité, et c'est ça qui rend les choses aussi difficiles. Avec une position où on est allongé sur le fauteuil et donc on est évidemment sous l'emprise, entre guillemets, voilà, ça peut paraître de la vulnérabilité. Mais pourtant, les dentistes travaillent beaucoup à expliquer, à communiquer, à travailler avec le patient pour pouvoir expliquer la maladie, accompagner, gérer le stress. Et surtout, il y a depuis tout, enfin, moi, de, une quarantaine d'années. Je pense que les anesthésies dentaires existent depuis que je suis enfant. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'on anesthésie pour éviter des douleurs et donc on a beaucoup de moyens d'accompagner.
Il faut bien faire comprendre, on va donc chez le dentiste pour se soulager et non plus depuis longtemps pour avoir mal. On vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Docteur Marjolaine Gosset, merci d'avoir répondu à notre invitation parodontiste à l'hôpital Charlefoix à Ivry-sur-Seine. Et on prend le temps dans Priorité Santé maintenant, le temps de respirer, du temps pour nous relaxer. Et comme tous les vendredis, c'est en votre compagnie, docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin, psychothérapeute, période stressante, assez angoissante. Alors on prend du temps pour soi, ça se passe en temps réel, une séance. Aujourd'hui, on va essayer d'aboutir à quoi à la fin de cette séance ?
Ah, c'est d'essayer de nous sortir de ces vilaines pensées qui nous tourmentent, qui nous obsèdent, qui nous focalisent tellement qu'on ne fait plus que penser à ça en continuité. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux qui nous enferme.
Respirer pour arrêter de ressasser, on s'installe de quelle manière ?
Alors là, vous allez vous installer les mains bien à plat sur vos jambes ou sur vos accoudoirs, comme vous voulez. Et le regard un peu au lointain. Alors au lointain, même si vous avez un mur ou un objet devant vous, c'est pas très grave, mais juste fixez un point et laissez vos yeux s'adapter, fixez ce point un peu comme si on le laissait dans l'horizon, voilà.
Bon, en face de moi, j'ai des arbres, donc je vais regarder les arbres qui bougent doucement dans le vent. Séance donc, on l'a dit, en temps réel. On vous écoute, on se met à votre rythme, allez-y.
Voilà, exactement, au rythme d'abord de nos pensées qui nous obstinent, ces fameuses pensées qui tournent en rond dans notre tête et qui fait que du matin au soir, et même parfois la nuit, vous les connaissez bien ces pensées, elles nous tourmentent tellement qu'on a l'impression que ça nous a envahis, que ça a totalement pris notre bande passante mentale. Et alors le pire du pire, mais ça vous savez bien Caroline, c'est que quand on se dit « surtout, faut pas que j'y pense », alors là, c'est comme si je vous disais « Caroline, ne pensez pas à la couleur rouge ». Évidemment, vous y avez pensé et on essaye de faire ça, mais ça ne marche pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire autrement, justement. C'est ça, c'est ce changement de rythme que je vous invite à faire par rapport à ces pensées qui nous obsèdent. Prenez-en une au passage en étant installé dans votre position, n'importe laquelle, comme si on pêchait. Hein. En général, on en a suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de choisir pendant très longtemps. L'une d'elles, une pensée qui vous a embêté, qui vous a préoccupé ces derniers temps, qui était tellement là, et tout en étant bien installé sur votre fauteuil, et en regardant devant vous, à l'horizon, c'est déjà de permettre à vos yeux de regarder au-delà, de regarder plus loin encore. Et contrairement à ce qu'on se disait, on se disait, je vais essayer de ne pas y penser, il ne faut pas que j'y pense, il faut que j'oublie, non, non, non. Au contraire, Caroline, je vous invite à penser à cette pensée, à y penser naturellement, librement. On ne la jugerait pas, on arrête de juger. On lui demande rien à cette pensée, vous ne vous demandez rien non plus. Vous ne vous demandez rien parce qu'on fait rien pendant quelques instants. Juste la regarder, cette pensée, comme si on pouvait l'observer, mais en étant à fixer ce point. Vous remarquez bien devant vous, dans le champ de vision, ça devient un peu brumeux, un peu flou. Si vous maintenez votre concentration sur le même point, votre vision devient brumeuse, se voile. Et alors c'est le bon signal que vous êtes en train d'observer votre pensée à l'abri, en étant bien installé derrière ce qu'il vous va bien, un voile, une protection, comme derrière peut-être une fenêtre, quelque chose qui vous met à une certaine distance, qui met la pensée de l'autre côté. Cette pensée maintenant, observez-la, vous pouvez peut-être déjà avoir fermé les yeux, ou si les couleurs se sont mises à changer dans votre champ de vision, un engourdissement vous vient, vous fermez les yeux maintenant. Et c'est derrière vos paupières de protection que vous voyez cette pensée apparaître d'une autre manière, peut-être. C'est un objet qui a une forme, une taille, qui ressemble à cette pensée ou peut-être qui est abstrait, qu'un objet comme ça. Ou peut-être c'est une couleur, tout simplement une couleur, avec une teinte, une nuance. Et vous la regardez, et c'est une couleur parmi d'autres. Vous la faites venir volontairement, la couleur de votre pensée, la forme de votre pensée. Ça n'est maintenant plus qu'une forme colorée. On regarde cette forme colorée comme un objet posé devant nous. Et quelle que soit cette couleur ou cette forme qui vous est apparue, faites venir maintenant volontairement d'autres couleurs, comme si nous pouvions avoir un arc-en-ciel de couleurs, comme si nous pouvions avoir plein d'objets qui vous plaisent, d'autres objets de votre choix, d'autres couleurs que vous aimez bien, vos couleurs préférées. Et voyez, je n'ai même pas besoin de vous le proposer, Caroline, que je sais que chacun de vous, vous êtes en train de ranger, de disposer dans l'ordre, dans le désordre peut-être, chacun à sa manière, ses couleurs, ses objets. Tout autour, il y en a toutes les teintes, toutes les formes. Il y en a plein. Il y en a de plus en plus, on ne peut même pas les compter tellement il y en a. Et sans même avoir remarqué comme votre corps lui-même s'est engourdi, les yeux s'ils se sont fermés, c'est les muscles qui ont suivi, c'est la respiration qui est plus profonde. Et maintenant, il y a plein de choses dans notre paysage mental, il y a plein de couleurs, arc-en-ciel, il y a plein d'objets qu'on range, qu'on dérange, qu'on déplace, qu'on laisse tomber. Certainement, parmi tout cela, il y a ce que vous avez mis de côté, c'est très bien. Peut-être maintenant, il y a ce que vous mettez plus proche de vous, parce que ce sont des choses importantes pour vous. Et on a le choix. C'est important, vous avez constaté que vous avez le choix, que vous pouvez contrôler les choses. Qu'on contrôle en rétablissant cet ordre, en rétablissant ce rangement, ça fait du bien. Et vous pouvez laisser ça se faire, car maintenant votre esprit a appris à procéder de cette façon-là. C'est notre nouveau marque-page. Maintenant que votre conscience revient un petit peu à la surface, à la lisière, vous vous rendez compte que, oui, on sait, il y a la couleur de tout à l'heure, du départ, il y a la forme, mais elle est parmi d'autres. Elle est parmi d'autres et c'est suffisant, c'est très bien comme ça. Elle est à sa place. Et il y a deux nouvelles choses maintenant qui vous intéressent et vous allez passer chacun, chaque auditeur, chaque auditrice à ce que vous avez à faire dans la journée, en vous rappelant comment vous avez rangé une pensée qui est maintenant autre part, à sa place. Tout va bien.
Tout va bien avec vous, docteur Adrien Chaboch. Votre voix, on l'écouterait pendant des heures, mais hélas, ça s'arrête maintenant. On vous remercie beaucoup hein, et on se retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Merci et très bonne journée. Notre émission qui touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Raphaël Lazizi. Lundi, nous parlerons avec Igor Strauss, une émission consacrée à la journée sans tabac, puisque la journée sans tabac, eh bien, c'est dimanche, les meilleures méthodes, les meilleurs conseils pour arrêter de fumer. Ce sera lundi à 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards.